Alors bonjour tout le monde, c'est Pat qui vous parle. Comment ça va ce soir? Eh bien moi, ça va très 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 bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un peu d'un sujet que je redécouvre, hein, un sujet qui est fondamental pourtant à la foi chrétienne, un sujet qui est fondamental à notre vie, à notre marche, mais un sujet que je redécouvre encore plus ces temps-ci dans sa beauté universelle et éternelle. Alors ce soir, on va parler de l'Évangile éternel, l'Évangile qui n'a jamais changé, hein, l'Évangile qui n'a pas changé. Dès le départ, on voit Adam et Ève croquer le fruit défendu et volontairement se retirer, hein, du point de vue divin, donc de choisir de croire le mensonge satanique et de décider d'être pour eux-mêmes la perspective du bien et du mal. Donc, de choisir pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, et va naître ainsi le fameux relativisme. Hein? Ce qui est vrai pour toi, ce qui est bon pour toi, n'est pas nécessairement bon pour moi, ça peut tout aussi bien être mal pour moi. Et là, l'être humain a été plongé dans une justice relative. Et évidemment, la justice n'a pas changé, la vérité n'a pas changé, le bien n'a pas changé, ce qui est mal n'a pas changé, mais la perspective des individus est devenue biaisée et l'individu, pour lui-même, peut décider, hein, ce qui est vrai et ce qui est bon, qui est bien et mal, et en assumer les conséquences, évidemment. Et quand ce que l'être humain pense, ce que l'être humain dit, c'est que la manière que l'être humain agit, quand c'est beau, vrai et bien, eh bien, il s'accorde, hein, avec ce que Dieu pense des choses. Il fait le bien, il fait ce qui est beau, ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment vrai. Il dit ce qui est vraiment vrai. Et donc, on a là vraiment l'essence même de la mort spirituelle, cette fameuse séparation d'avec Dieu. Mais dès le début, Dieu a voulu, hein, pallier à la chute adamique, ça veut dire, parce que Dieu est sauveur, c'est sa nature. Et évidemment, l'absence de quelque chose à sauver, c'est pas une nature. C'est une nature qui est dépendante, hein, évidemment, dans le sens que cet aspect-là de Dieu est dépendant de la chute, est dépendant de la. C'est contingent. Dieu a pas besoin, si Dieu n'a pas besoin de sauver, il ne sauve pas. Hein. Mais dès lors qu'il a besoin de sauver, dès lors qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un à sauver, il va le faire. S'il peut le faire, si la personne le laisse faire. Parce qu'il est sauveur. Et ce n'est pas étonnant que Dieu ait planifié, dans l'éventualité de la chute, que Dieu ait planifié, hein, le salut en Jésus-Christ, parce qu'il est sauveur. Et donc, on va tourner ensemble dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nommer toutes sortes de personnes qui ont eu la foi à travers les âges. Jusqu'au verset 6, il va reprendre après au verset 7. Au verset 6, il va dire ceci: or, la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, c'est un passage remarquable parce que Dieu, l'essence même de ce qu'il veut pour l'humanité, c'est qu'il croit qu'il existe et qu'il le cherche, et qui va rémunérer ceux qui le cherchent. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, il y a un passage remarquable qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel. » L'évangile éternel, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez-le. Craignez Dieu, donnez gloire à Dieu, adorez Dieu, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comme on voit, hein, même dans l'Apocalypse, alors que c'est en pleine grande tribulation, tout va mal, tout est, il y a tellement de pression de toutes parts que les êtres humains peuvent même plus annoncer l'Évangile que c'est un ange qui le fait. Tellement Dieu est sauveur, tellement Dieu envoie un ange parce que les hommes ne peuvent plus le faire. Alors, et l'ange annonce l'Évangile, et ce qui est remarquable, c'est le contenu de ce qu'il dit. Hein? C'est le contenu, je vais le mettre en plus grand. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, 6 et 7. Je trouve ça remarquable. Parce que ça, c'est, pour ainsi dire, l'Évangile dans sa plus simple expression. Dans sa plus simple expression. Et l'Évangile est toujours ancré dans la personne de Jésus-Christ, parce que c'est à cause de Jésus-Christ. Hein? Tournez avec moi dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Et à la fin du chapitre. Regardez bien ce que ça dit. Paul est en train de. Paul vient d'établir hein, que tous étaient déchus de la gloire de Dieu. Hein, tous ont péché et sont déchus de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne rencontre les standards de Dieu. Personne. Et Paul arrive, il est en train d'écrire aux Romains, et il va dire quelque chose d'étonnant. Et je ne l'avais jamais vu jusqu'à récemment, mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu. Maintenant, sans la loi, hein, et manifester la justice de Dieu. Je trouve ça remarquable, parce que le mot ici, pour manifester, c'est le mot grec qui veut dire, attends un petit peu, c'est le mot phanéréo, hein, qui veut dire rendre visible, rendre apparent, rendre manifeste ce qui ne l'était pas. Rendre manifeste ce qui ne l'était pas. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alors, dans l'âge de l'Église, au moment où Jésus-Christ, Galates 4:4, hein, quand les temps ont été accomplis, Christ est venu, hein, né d'une femme, né sous la loi, il a manifesté qui avait de tout temps été vrai. Que si Dieu peut justifier l'injuste par la foi, s'il peut le faire, il y a une seule raison, et là, il nous le manifeste, Paul nous le dit, il nous le manifeste maintenant, et s'il peut le faire, c'est à cause de Jésus-Christ. Non pas qu'avant, les gens savaient nécessairement que Christ allait venir. Tout ce qu'il savait, c'est que s'il criait à l'Éternel, que l'Éternel allait répondre. Regardez bien ça ici. Psaume 116, 13. « Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Psaume 116, 17, je te sacrifierai des sacrifices d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël 2, 32, Actes 2, 21, Romains 10, 13. Regardez ce que ça dit dans Corinthiens 1, 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le vôtre. Évidemment, nous croyons que Dieu est trinitaire. Nous croyons à la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes, un seul Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, si tu invoquais le nom du Seigneur pour ton salut, c'était tout. Si tu invoquais le nom de l'Éternel pour ton salut, c'était invoquer Christ. C'était invoquer le nom du Seigneur pour le salut, hein, nécessairement. Les trois sont un. Mais ce qui est fantastique dans ça, c'est que quand on tourne dans un passage comme Acte 10, tourne avec moi dans Acte 10. Moi, je trouve que ça lie, là, ça vient de lier tout ensemble. Pourtant, je le savais. Mais j'ai comme découvert ça récemment, puis je trouve ça tellement beau de voir comment le cœur de Dieu, ça a toujours été de sauver. De sauver. Alors, Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui, et saisi des fois, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur? » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Moi, je trouve ça remarquable. Regardez bien ici au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Et pendant qu'on le préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins. Et là, regardez bien, ça continue. Il va voir la fameuse vision avec la nappe, avec les animaux purs et impurs. Et il va dire au verset... Tandis que Pierre ne savait pas lui-même que penser du sens de sa vision, il y avait eu, voici les hommes envoyés par Corneille, ayant été informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Et là, verset 19, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs fera un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans la maison et d'entendre tes paroles. » Quelle situation remarquable! Voilà un païen qui craint Dieu, qui fait des aumônes, qui prie à l'Éternel, et Dieu entend tout ça et lui envoie un ange pour l'envoyer à Pierre. Et Pierre va lui dire, ben écoute, va lui annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cet homme, il semble en tout cas que cet homme était sauvé, hein? Mais il ne connaissait pas celui qui l'avait sauvé. Hein, il avait invoqué le nom du Seigneur, ça le dit ici, on l'a vu. Hein? Quiconque invoquerait le nom de l'Éternel sera sauvé. Il invoquait l'Éternel, il priait à Dieu, il faisait des aumônes, il faisait de son mieux, il priait. Et donc, évidemment, il est sauvé. Mais il ne connaissait pas celui qui l'avait sauvé. Pierre est envoyé, puis il lui annonce. Il dit, ce que tu connais. Un peu ce que Donc, 17. Hein? Ce que vous adorez, adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer, Paul va dire, hein, à l'aéropage. Que c'est beau. Que c'est beau, mesdames et messieurs. Je trouve ça remarquable. Galates 4, 26, 7. Eux aussi, un fils. Eux aussi, un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Hey, ça fait longtemps, là. Quelques générations, on commence à invoquer le nom de salut, du Seigneur pour le salut. Avant aussi, il y avait une... Mais l'expression devient ancrée. On invoque le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur. C'est fantastique. Genèse 15, 6, Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Hein? Donc, ils font confiance. Abraham a eu confiance, a mis sa foi. On l'a vu dans Hébreux 11. Abraham a mis sa foi en l'Éternel et l'Éternel l'a sauvé. Deutéronome 1, 32, 33. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel votre Dieu qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. Donc, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel. On voit qu'il y a vraiment un jeu ici dans les Écritures. Celui qui invoque le nom du Seigneur pour le salut, celui qui, malgré la délivrance de Dieu, ne fait même pas confiance à Dieu. C'est impressionnant. Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras, tu jureras par son nom. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Deutéronome 6, 13. Et ça, on va voir que c'est une autre façon, hein, où est-ce que la Bible nous parle de placer sa confiance en Dieu, c'est de craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel. Et on voit ça partout dans les Écritures. Hein? Partout dans les Écritures. Rappelez-nous, rappelons-nous le fameux passage de Apocalypse 14. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau, dans Apocalypse 14, 6. Craignez Dieu, craignez Dieu. Hein? Deutéronome 10, 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Que désire, que demande l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher. Et là, ce n'est pas la marche qui sauve. C'est la foi. Parce qu'avant de craindre l'Éternel, il faut y croire. Hein? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu crois en Dieu, tu sais qu'il est ton rémunérateur, mais tu le crains. Et là, parce que ça, c'est vrai, tu vas marcher dans ses voies. Ça, ça a toujours été la beauté de l'Évangile. Comme dit l'apôtre Jacques, les œuvres qui témoignent de la foi. Les œuvres qui témoignent de la foi. C'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Donc, il y a vraiment, comme on a toujours enseigné, la beauté de placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ou en l'occurrence, dans l'Ancien Testament, en Dieu, au Créateur, comme dit Apocalypse 14. Hein? Adore le Créateur. Parce qu'il y en a juste un Créateur. Mais il a placé sa confiance en Dieu, placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, et puis après ça, il a être disciple de l'Éternel, c'est-à-dire marcher dans ses voies puis le servir. De tout temps, c'était comme ça. Hein? Croire en Dieu, le craindre, marcher dans ses voies. Et être disciple, c'est craindre Dieu et c'est marcher dans ses voies pour le servir. C'est ça que ça veut dire être disciple. Psaume 33, 18, 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Hein? Encore, qui va invoquer l'Éternel? C'est ceux qui espèrent en sa bonté. C'est ceux qui croient en Dieu, parce que tu n'invoques pas dans quelqu'un que tu ne crois pas. Tu ne places pas ta confiance dans quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne crois pas, que tu penses qu'il n'existe pas. Tu places ta confiance, tu invoques, tu cries à l'aide. Tu sais qu'il est, tu fais confiance en sa bonté. C'est ça, l'essence de l'Évangile. Afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Toujours dans le psaume 33, 18 et 19. Psaume 34, 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui espèrent en sa bonté. En tant que croyant, hein, on a quelque chose, c'est-à-dire que on croit, on a notre seul secours a été d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Ça a été notre seul secours. Invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. C'est ça que Romains 9, on l'a lu, hein, dans Romains chapitre 9. 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tournez avec moi justement dans Romains chapitre 10. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Hein? Déjà au verset 1, mais là, c'est au verset 13. Attendez un petit peu. Verset 11, hein, on va commencer au verset 11. Verset 10, verset 9. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoque. Car, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? D'où l'importance, hein, l'importance d'amener l'Évangile, de prêcher l'Évangile, d'aller de l'avant. Mais le verset, le passage n'arrête pas là. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est magnifique. On verra un autre jour qu'est-ce que ça veut dire le verset 18. Ça, c'est rempli d'une richesse qu'on ne peut pas imaginer. Mais ce qu'on voit donc aujourd'hui, puis ce que je veux réitérer, revenir à la simplicité de l'Évangile de Jésus-Christ. Maintenant, on sait. Maintenant, on connaît. Maintenant, on sait pourquoi, à travers les âges, Dieu a pu sauver parfaitement ceux qui l'ont invoqué. Mais maintenant est manifesté la justice de Dieu. Maintenant, il est révélé, Paul va dire. Maintenant, je vous le dis pourquoi ça s'est fait de même. Pourquoi? Comment ça a pu se faire? Mais ça a pu se faire parce que Christ est... Dieu savait, Dieu avait planifié la croix pour pouvoir faire grâce. Dans l'éventualité de la chute, Dieu avait planifié la croix pour pouvoir faire grâce. Mais ça, c'est un secours parce que Dieu est sauveur. Dieu nous aime. Dieu aime l'être humain. Vous savez, il y a deux façons de considérer Dieu. Il y a deux façons de considérer Dieu. Ou bien on le considère comme celui qui aime l'être humain, ou bien on le considère comme celui qui n'aime pas l'être humain. Dans Malachie, il y a plein de questions que le prophète va faire. Puis Dieu, et Dieu va reprocher à Israël de le questionner ou de dire en quoi nous as-tu aimé, en quoi. Tu sais, c'est comme si. Et le prophète va continuellement, dans Malachie, Dieu par la bouche du prophète va leur dire, écoutez, vous me fatiguez. Vous me fatiguez parce que vous me fatiguez à force de parole, tellement qu'au verset 2,17, le prophète va dire, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant que quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Vous me fatiguez, vous n'arrêtez pas de dire, où est-ce qu'il est le Dieu de justice? Ah, celui qui fait le bien, ben écoute, c'est tout déterminé. Dieu, c'est bon aux yeux de Dieu, ça, il le fait, c'est lui qui l'a décidé. Ça, c'est fatigué, Dieu. Dieu aime profondément l'être humain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de Dieu pour toute l'éternité, oui, pour toute l'éternité, mais depuis la création du monde, ça a été le cas. On le voit dès Enoch, hein? C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Fantastique, fantastique. On continue. On l'a vu, hein, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et on l'a vu dans Actes 10, 34 à 35, la conclusion, non, ça on ne l'a pas vu encore, c'est la conclusion de l'épisode avec Cornée. Regardez ce que Pierre va dire, puis c'est avec ça que je vais vous laisser ce matin. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Évidemment, pour craindre l'Éternel, il faut le croire, il faut placer sa confiance en lui pour lui faire confiance, pour croire en sa bonté. On marche dans ses voies. On pratique la justice. Donc, on n'est pas juste des croyants. Mais on est aussi des disciples. Alors, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment.